Eh bien, les grands titres de ce 7 février avec en Australie le sénateur Cory Bernardi qui démissionne du Parti libéral pour former son propre parti conservateur. Le speaker de la Chambre des communes en Grande-Bretagne ne veut pas que Donald Trump, le président américain, s'adresse aux parlementaires britanniques. Et puis l'équipe du Cameroun, vainqueur de la CAN de 2017, rentre au pays avec un accueil triomphal. En Australie, donc, la démission du sénateur Cory Bernardi du Parti libéral ce mardi. Il va fonder son propre parti conservateur. Plusieurs de ses collègues du Parti libéral l'ont critiqué, dont Kelly O'Dwyer.
I think anybody who's elected as a Liberal owes a responsibility not only to the people who pre-selected them, but also to the people who voted for them, who placed their trust in them to be a member of that particular political party. I think most people do understand that.
Kelly O'Dwyer du Parti libéral, l'opposition fédérale critique les divisions au sein du gouvernement. La sénatrice du Labour, Penny Wong, est sur l'ABC.
Let's understand what Cory Bernardi's apparent decision demonstrates. It demonstrates a government coming apart at the seams. It demonstrates a government that is riven with internal division. It demonstrates a government, frankly, which is much more focused on itself than on the issues that that matter to most Australians.
Voilà, c'était la sénatrice du Labour, Penny Wong. Le Premier ministre Malcolm Turnbull essaie de rallier les membres de la coalition pour une nouvelle année parlementaire. Il s'est adressé ce matin lors d'une réunion de la coalition gouvernementale.
The values of our parties, the Liberal and the National parties, is grounded, focused on defending the interests of hard-working Australian families and the businesses which employ them, which provide them with the opportunities to get ahead. Better times for Australians today, for our children and our grandchildren.
Voilà, c'était le Premier ministre Malcolm Turnbull. Le speaker de la Chambre des communes en Grande-Bretagne déclare qu'il ne soutiendrait pas un plan permettant au président américain de s'adresser au Parlement britannique lors de sa prochaine visite en Grande-Bretagne. 150 parlementaires britanniques ont signé une motion symbolique pour que le président américain ne vienne pas s'adresser au Parlement. John Bercow est le speaker de la Chambre des communes. On l'écoute.
As far as this place is concerned, I feel very strongly that our opposition to racism and to sexism and our support for equality before the law and an independent judiciary are hugely important considerations in the House of Commons.
Voilà, c'était John Bercow, le speaker de la Chambre des communes en Grande-Bretagne. 97 compagnies américaines, dont Apple et Google, se sont mobilisées pour s'opposer légalement au décret du président Trump interdisant pour 90 jours l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans. Selon ces compagnies, c'est l'économie américaine qui va en souffrir, mais le président Trump ne cède pas. Il était en Floride où il s'adressait aux troupes américaines.
We will defeat radical Islamic terrorism, and we will not allow it to take root in our country. We're not going to allow it. We need strong programs so that people that love us and want to love our country and will end up loving our country are allowed in, not people that want to destroy us and destroy our country.
Le président américain Donald Trump et puis la nomination du futur ministre de l'Éducation fait polémique aux États-Unis. Deux sénatrices républicaines s'y opposent en plus. Le point avec Romain Le Maresquier pour Radio France Internationale.
Le Sénat américain est formé par 100 élus et actuellement ce sont les républicains qui détiennent la majorité avec 52 sénateurs. Ces voix devraient donc normalement suffire pour confirmer Betsy DeVos, nommée par Donald Trump à l'éducation, mais suite à l'annonce par les sénatrices républicaines du Maine et de l'Alaska qu'elles voteront contre cette nomination, la situation est désormais bien différente. Betsy DeVos, une des plus généreuses donatrices du Parti républicain, épouse d'un milliardaire et qui défend la liberté de choisir son école, a su s'attirer les foudres de nombreux élus au Sénat et pas que des démocrates. démocrate. Il dénonce non seulement son inexpérience, mais également ses idées. Elle qui souhaite mettre en place un système de bons donnés par l'État aux enfants pour qu'ils puissent payer leurs frais de scolarité dans des écoles privées. Face à la crainte de se retrouver dans une situation d'égalité parfaite lors du vote de sa confirmation, la Maison-Blanche n'a d'autre choix que d'appeler à la rescousse le vice-président Mike Pence. Ce dernier devrait se rendre au Sénat, porter sa voix pour éviter un camouflet politique. Ce serait alors la première fois qu'un vice-président agit de la sorte, une situation qui démontre encore une fois la défiance que suscite même au sein du Parti républicain le 45e président des États-Unis.
Romain Le Maresquy est pour RFI. François Fillon, le candidat de droite en France, va continuer sa campagne pour la présidentielle. Il a donné une conférence de presse hier expliquant les circonstances des détails de l'emploi de sa femme comme son conseiller. D'autres détails tout à l'heure avec notre correspondant Frédéric Suteau dans la chronique France. Le Parlement israélien a voté une loi pour légaliser des avant-postes construits sur des terres privées palestiniennes en Cisjordanie à l'époque. Il y aura peut-être un appel contre le projet de loi en Cour suprême. Précision, Anastasia Becchio pour RFI.
La nouvelle loi israélienne légalise le vol de terres palestiniennes. C'est en ces termes que l'Organisation de libération de la Palestine a réagi. De son côté, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient prédit des conséquences juridiques de grande ampleur pour Israël après l'adoption de cette loi qui, selon Nicolas Mladenov, réduit fortement les perspectives de paix arabo-israélienne. Le texte adopté permet de déclarer terres israéliennes des terrains privés palestiniens sur lesquels des Israéliens auraient construit sans autorisation. Cela revient à légaliser rétroactivement la construction de près de 4000 logements de colons juifs en Cisjordanie occupée. Selon l'organisation qui s'oppose à la colonisation La Paix Maintenant, plus de 800 hectares de terres palestiniennes devraient ainsi être expropriés. Les détracteurs de cette décision redoutent aussi qu'elle ne renforce la droite israélienne qui réclame l'annexion de la Cisjordanie et qui a eu un regain d'optimisme après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais ce texte pourrait n'être que symbolique. Il contrevient aux arrêts de la Cour suprême sur la question des droits de propriété. Le procureur général d'Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il ne le soutiendrait pas car il enfreignait le droit international.
Anastasia Becchio pour RFI. En Australie, à nouveau, un comité sénatorial examine l'accord commercial du partenariat transpacifique avec des doutes sur son avenir après la décision du président américain d'exclure les États-Unis de ce partenariat. 12 pays sont impliqués dans cet accord. Le ministre australien de l'immigration, Peter Dutton, déclare que ça prendra des mois pour la sélection de personnes éligibles qui seront choisies pour être réinstallées aux États-Unis. L'accord entre les deux pays tient toujours malgré les récents commentaires du président américain qui pense, je cite, que c'est un accord stupide. Peter Dutton a déclaré sur l'ABC que l'Australie travaille étroitement avec les États-Unis pour identifier les réfugiés éligibles pour s'installer en Amérique.
It'll take months and we'll need to work through each individual case. That was always the case under the Obama agreement. It's been adopted now by President Trump and it will take time to work through individual cases. In some cases there are identity issues, in other cases there will be separated family members that we will try and repatriate and we'll do it in a compassionate way.
Voilà, c'était Peter Dutton, le ministre de l'immigration. La Reserve Bank gardera les taux d'intérêt tels quels lors de sa première réunion de 2017 cet après-midi, selon les experts, soit donc à 1,5%. Journée de commémoration ce mardi en Tasmanie pour marquer Black Tuesday. 50 ans de cela, les feux de brousse ont fait 62 morts et blessé plus de 900 personnes. C'était le 7 février 1967 dans le sud-est de l'État. 62 000 têtes de bétail ont trouvé la mort, 1400 maisons détruites et 2264 000 arpents de terre brûlés ce jour-là. Les procureurs du Victoria ont en main des témoignages sur les allégations d'abus sexuels par le cardinal Pell de l'Église catholique. La police du Victoria confirme que le bureau du procureur général a en main des dossiers sur cette question. Trois officiers de police ont fait le voyage à Rome en octobre dernier pour interviewer le cardinal Pell qui dément les allégations d'abus sexuels. Je rappelle que la commission qui enquête depuis 4 ans sur la pédophilie a commencé hier, lundi, à rendre publics ses travaux. Entre 1950 et 2010, 7% des prêtres catholiques, soit 1 sur 14, ont fait l'objet d'accusations d'abus sexuels sur les enfants sans qu'aucune enquête ne soit ouverte. On écoute les précisions de Christophe Paget pour Radio France Internationale.
Ce chiffre de 7% est une moyenne. La commission d'enquête royale rapporte que dans certains diocèses, la proportion de prêtres soupçonnés de pédophilie sur cette période atteint les 15%, 20% pour certains ordres religieux, 40% pour l'ordre Saint John of God Brothers. Presque 4500 personnes affirment avoir été victimes d'abus sexuels de religieux pendant ces 60 années. Les filles avaient en moyenne 10 ans, les garçons 11, et personne ne les a écoutées. Les enfants étaient ignorés ou pire, punis. Les accusés ne faisaient l'objet d'aucune enquête, explique Gaëlle Furness, l'avocate qui préside aux travaux de la commission. Les paroisses vers lesquelles les religieux étaient transférés ignoraient tout de leur passé et les documents y faisant référence étaient détruits. « Nous baissons honteusement la tête », a déclaré le directeur du Conseil Vérité, Justice et Guérison, créé par l'Église australienne pour organiser une réponse face aux révélations de la commission. Une commission royale qui n'a été mise en place qu'en 2013, après 10 ans de pression, et qui depuis a entendu des milliers de victimes, enquêtant sur l'Église, mais aussi les écoles, les orphelinats, l'armée, les associations de jeunesse et les clubs sportifs. En 4 années d'enquête, elle a signalé 300 cas à la police. Jusqu'ici, seules 27 poursuites ont été engagées. 75 cas sont en attente.
Christophe Pagé pour RFI. Le gouvernement fédéral en Australie veut aller de l'avant avec son projet de réduction fiscale pour les entreprises. Le taux est de 30% pour le moment, mais selon un sondage RichTel, une majorité des électeurs dans des circonscriptions libérales ne sont pas d'accord avec la politique gouvernementale. L'armée syrienne continue de progresser au sud de la ville d'Al-Bab, l'une des positions les plus importantes de Daesh en Syrie après la ville de Raqqa. Reportage Daniel Valo, RFI.
C'est une percée de l'armée syrienne qui pourrait précipiter le cours de la bataille d'Al-Bab. Depuis ce week-end, les forces pro-Bachar al-Assad ont progressé au sud d'Al-Bab au point de menacer le dernier axe routier qui permettait aux combattants djihadistes de se ravitailler. Située à 25 km environ de la frontière turque, la ville d'Al-Bab est de facto totalement encerclée, avec au nord de la ville les combattants de la rébellion syrienne appuyés par l'armée turque et au sud les troupes envoyées par Damas. Désormais, c'est une course contre la montre qui va s'engager entre ces forces a priori antagonistes, avec une même cible, mais des objectifs bien différents. Ankara veut s'imposer comme un acteur incontournable en Syrie dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique, et cela au détriment des forces kurdes soutenues par Washington. Damas veut rétablir son autorité sur un territoire considéré comme un verrou stratégique absolument crucial entre la ville d'Alep et celle de Raqqa. Cette course de vitesse pour s'emparer d'Al-Bab pourrait entraîner une situation inédite dans le conflit syrien et potentiellement explosive, un face-à-face direct entre l'armée turque et celle du régime syrien.
Daniel Valo pour RFI. Deux voiliers avec à bord 1500 kilos de cocaïne a résonné dans les eaux de Tahiti et des îles Marquises. La véritable destination serait l'Australie. La cocaïne serait en provenance de la Colombie. Écoutez un des responsables des opérations douanières de Tahiti.
C'est effectivement nouveau sur des quantités beaucoup plus importantes qu'avant. On pense plutôt, et c'est ce que nous ont montré les enquêtes antérieures, que les trafiquants utilisent les îles françaises du Pacifique comme des ports de rebond. Elles sont utilisées par ces organisations simplement parce qu'elles se trouvent là et que ça leur permet de refaire des vivres et puis de refaire du gazole. Visiblement, le deuxième bateau saisi et contrôlé le 23 janvier, il avait des problèmes de moteur. Donc ces trafiquants, ils s'arrêtent sur les îles qui se trouvent sur leur passage.
Voilà un des responsables des opérations douanières de Tahiti. Et puis l'événement culturel en Polynésie cette semaine, c'est la 14e édition du FIFO. FIFO, le Festival international du film documentaire. Reportage Tita Wadoum pour RFI.
C'est après le Heivai Tahiti, le deuxième plus gros événement culturel en Polynésie française. Le FIFO accueille chaque année plus de 28 000 festivaliers. 142 films documentaires ont été inscrits cette année. La majorité vient des quatre coins de l'Océanie, mais aussi d'ailleurs. 40 films documentaires ont été sélectionnés, 14 en compétition, 16 hors compétition et 10 films dans les écrans océaniens. Le jury du FIFO 2017 est présidé par Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, un président d'exception pour cette 14e édition grâce à sa connaissance des cultures océaniennes. Tous les films sélectionnés sont éligibles au prix du public. Seuls les films en compétition sont ouverts au prix du jury.
Tita Wadoum pour RFI. Un mot de sport avec l'équipe du Cameroun, championne de la CAN 2017 et rentrée au pays hier. Les Lions indomptables sont arrivés à l'aéroport de Yaoundé avec un accueil triomphal. Reportage Polycarpe et Samba pour RFI.
C'est une soirée finalement assez incroyable à laquelle ont eu droit les supporters des Lions indomptables, une procession qui a duré près de 4 heures et qui a laissé penser à certains que les tout nouveaux champions d'Afrique avaient pris une voie contournée pour aller leur hôtel pour raison de sécurité. Eh bien finalement, il n'en a rien été. Les Lions ont bien traversé le centre de Yaoundé escortés à l'avant et à l'arrière de leur bus par une foule immense. Cette foule les a suivis à pied le long des 20 km de trajet reliant l'aéroport au centre-ville. Le bus a traversé la ville à un quasi-rythme de acclamé par les populations qui attendaient pour certaines depuis la mi-journée. L'euphorie était à son comble, certaines personnes étaient en pleurs pendant que d'autres essayaient de s'accrocher sur le bus qui peinait à se frayer un chemin au milieu de cette foule compacte. Alors qu'il est, les Lions sont à leur hôtel, sans doute épuisés mais heureux d'avoir pu communier avec leur public.
Polycarpe et Samba pour RFI. Coup d'œil météo ce mardi en Australie, Perth maximal de 28 degrés, Adélaïde 31, Melbourne 26, Hobart 20, Canberra 23, Sydney 25, Brisbane 32, Cairns 32, Darwin maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 7 février en Australie, le sénateur Cory Bernardi du Parti libéral démissionne pour former son propre parti conservateur. Le speaker de la Chambre des communes en Grande-Bretagne ne veut pas que le président Donald Trump s'adresse aux parlementaires britanniques.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench